Quoique notre cordon ombilical est rattaché à Dieu, mais la réalité, c'est que nous avons les pieds sur terre. Et que ma prière, c'est que nous, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, nous puissions, pendant notre passage sur la terre, avoir les oreilles ouvertes, les yeux ouverts et un cœur ouvert. Nous vivons une période très difficile dans le monde. Et les événements qui se produisent dans le monde ne sont que des reflets d'une réalité spirituelle qui se manifeste sur la terre. Il y a des indices que Dieu utilise pour nous enseigner ses voies ou ses pensées. Et il nous faut être attentifs, avoir des oreilles intérieures des disciples pour comprendre avec l'intelligence de l'esprit qu'est-ce que Dieu veut nous dire au travers des événements. Souvent, le Seigneur semble nous dire « Arrêtez, sachez que je suis Dieu. » Mais souvent, les hommes ne paient pas garde, ils continuent toujours dans leur course. Avant que nous puissions revenir dans la prière d'intercession, je voudrais simplement rappeler les événements difficiles qui se passent dans le monde à l'heure actuelle et dont parfois les politiques n'en parlent pas trop. La situation en Arménie des chrétiens, ce n'est pas rien. 100 000 personnes qui quittent leur endroit parce que poursuivies à cause de leur foi. Et sans compter encore ce qui s'est produit en Israël et que le bilan de ce matin est encore beaucoup plus catastrophique que ce qu'on croyait. 300 morts, et ça c'est provisoire. 1864 blessés. 30 policiers tués. 26 soldats tués. Sans compter ceux qui ont été kidnappés et qui ont été amenés sur le territoire palestinien. On pensait que c'était le Hamas qui faisait le travail, mais finalement, c'est les deux coalitions, Hamas et le Hezbollah. Et ça, ce sont les indices qui montrent. Les événements qui arrivent en Israël, ça, c'est le reflet de ce qui peut arriver à l'Église. Parce qu'il n'y a quand même qu'un lien. Sans vouloir le dissocier, ce qui se passe en Israël est toujours précurseur de ce que l'Église est appelée à vivre. Alors, sans vouloir aller beaucoup plus loin, nous allons examiner la nature de l'Église. Parce que c'est le sujet sur lequel je dois parler ce matin. L'Église, virgule, corps du Christ. Alors, je vous invite à la prière avant qu'on puisse lire les premières lectures. Seigneur, ce matin, c'est à toi que nous venons. Le cœur déchaussé, avec une soif intérieure de recevoir ta parole. Parce que c'est de cette parole que nous sommes nés de nouveau. Et c'est par elle que, en tant que nouvelle créature, nous sommes appelés à repaître nos cœurs et à manger la parole de vie. Accorde-nous de comprendre ce que tu veux nous dire ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Le Dieu des chrétiens, permettez-moi de le dire, parce que j'ai parlé de Jésus, de l'Évangile, la dernière fois, ou le Christ de l'Évangile. Pour la simple raison que Jésus dira dans Matthieu chapitre 24 que dans les derniers temps, il y aura des faux Christ. Et pour savoir discerner les faux Christ, il faut connaître le vrai. C'est pour ça qu'il y a un mélange du genre entre le Christ, Jésus de l'Évangile, et le Christ dont les gens parlent. Et souvenez-vous de la prédication de la dernière fois. Vous pouvez en avoir accès. Et la compréhension de Jésus, le Christ, sa vraie compréhension, nous permet d'avoir une véritable compréhension de l'Église. Une bonne christologie, c'est-à-dire l'étude du Christ, nous permet d'appréhender ce que c'est que l'ecclésiologie. Et c'est ce que nous allons tenter de le faire. Le temps n'y est pas beaucoup, mais on va essayer de poser l'essentiel, quitte à ne pas épuiser le sujet et de le continuer un peu plus tard. Donc le Dieu des chrétiens se révèle en trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Quand on parle des religions, la religion chrétienne n'est pas pareille aux autres religions. Parce que son Dieu, il est différent. C'est une personne en trois. Le Père, il est amour. C'est sa nature. Il est amour, c'est lui qui choisit. C'est lui qui appelle. celui qui envoie et celui qui consacre. Et dans le mot consacré signifie remplir les mains. C'est ça le terme consacré. Dieu le Fils. Son rôle, c'est de racheter. Parce qu'il est l'image de l'agneau qui a été offert pour racheter, nous racheter de nos péchés. Une fois qu'il nous a rachetés, et il en est devenu le propriétaire, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous met son tampon, c'est-à-dire le sceau, la marque de l'esprit, en faisant de nous des filles et des fils de Dieu. Parce que lui, il était fils. En tant que tel, toute personne qu'il sauvera épouse le même statut que lui, il a devant Dieu le Père. C'est que nous sommes les enfants de Dieu, au sens héritier du terme. C'est le Fils qui nous donne son esprit. Et c'est lui qui donne accès à la grâce abondante de Dieu. La différence ici, c'est que la grâce de Dieu a toujours existé. Mais par Jésus, nous avons accès à la grâce abondante, même surabondante de Dieu. Il faudra que nous le réalisons. C'est que si nous demandons un euro à Dieu, le vrai Dieu ne nous donnera pas un euro. Il nous donnera plus pour que nous ayons de quoi satisfaire nos besoins et à satisfaire aux besoins de l'autre. Dieu, le Saint-Esprit, lui, il garantit le salut. C'est lui qui nous recrée. La recréation divine passe par le Saint-Esprit. C'est par lui que nous sommes nés de nouveau. C'est lui qui nous rend saints. C'est lui qui nous guide. C'est le Saint-Esprit qui établit la communion les uns avec les autres et avec le Père. Et c'est lui qui conduit. Voilà le Dieu des chrétiens, différent de tous les autres dieux. C'est la particularité du mouvement chrétien. Et c'est pour dire que le mot qu'on emploie souvent, le christianisme, qui est un mot philosophique, veut simplement dire que la vie religieuse, c'est une relation entre Dieu et nous. C'est ça qui fait la différence. Alors nous allons lire plusieurs textes dont le développement va être court, parce que les textes se parlent, ça s'explique eux-mêmes. Nous allons lire 4 textes, même 5. Il y en a d'autres qui sont courts, d'autres un peu plus longs. On lira les 2 premiers, et le texte le plus important, je vous ferai lever, parce que c'est comme un hymne, parce qu'il n'y a pas un texte dans la parole de Dieu qui est aussi énorme au sommet que celui-là. Et on ne va pas le lire en état assis, on va honorer cette parole en le lisant beaucoup plus haut. Là, vous restez. Le peuple que je me suis formé publie mes louanges. Ça, c'est Ésaïe chapitre 43, verset 21. Voilà l'objectif de Dieu. Le suivant texte, que vous commencez à connaître déjà par cœur, on y va. Et moi, c'est Jésus qui parle. Avant lui, il y avait des gens, et dès que lui, il arrive, il dit, et moi. Et il attire le regard sur lui. Je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre elles. Remonte. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Là, c'est très important. Et nous n'avons pas encore abordé dans notre communion cette dimension. L'histoire des clés. Vous avez dit que les clés sont marquées au pluriel. Pour entrer dans une porte, il ne te faut pas plusieurs. Il te faut une clé pour entrer, qui est Jésus. Mais maintenant, quand on rentre dans le royaume de Dieu, il y a des compartiments des grâces de Dieu dont il faut avoir la clé. Souvent, on reste au salon et on ne rentre pas dans les détails. Et donc, il faut avoir ces clés. Là, on n'y est pas encore. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié. Quelle autorité ! Quelle autorité ! Tu peux remonter, s'il te plaît ? Je ne sais pas si c'est fini. Voilà. Le suivant. Celui-là, je vais vous demander de vous lever. Je vous en prie. Je le lis donc. Il l'a mise, il qui ? Dieu. Dieu l'a mise en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute principauté, alléluia, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. On continue. Dieu. Il a tout mis sous les pieds de qui? Sous les pieds de Jésus. Et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Le dernier, enfin l'avant-dernier. Jésus est avant toute chose et tout subsiste en lui. Continue. Il est la tête du corps de l'Église et le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Je vous invite à vous asseoir et on lira le dernier comme une prière. Je vous exhorte, ça c'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens. Frères ou sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tenez tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez en plein accord dans la même pensée, dans la même opinion. Ça, ce sont les prières de l'apôtre Paul que nous avons lues avant. Et cette prière rejoint celle de Christ, reflétant le désir suprême de Dieu que chacun des enfants du Seigneur puisse être rempli pleinement, sans mesure, de son esprit. Oui, il prie pour qu'une grande mesure de l'esprit soit largement donnée à chacun des enfants de Dieu, dont vous et moi. Pour quelle raison? Pour que par le don de l'esprit, chaque croyant puisse jouir d'une grande mesure de grâce, de recevoir un esprit de révélation qui lui donne de comprendre par Dieu, d'avoir une sagesse, une intelligence, des réalités spirituelles. Il nous donnera d'expérimenter de manière puissante dans nos vies de tous les jours, au quotidien, cette force que le Saint-Esprit renferme. Alors voyez mon regard, l'esprit qui était en Jésus, quand il est mort, l'esprit l'a pris dans le séjour des morts, il n'a pas connu la corruption, l'esprit l'a ramené du séjour de la mort à la vie, et c'est le même esprit qu'il a élevé à la droite de Dieu, et c'est le même esprit que Jésus a envoyé pour nous aider. C'est cet esprit-là qui est en nous, même si nous naissons, nous grandissons, nous changeons de physionomie, nous vieillissons. Ce n'est que l'enveloppe. Mais l'esprit, lui, il fait l'inverse. Pendant que nous, nous vieillissons, lui, il s'élance dans la glorification. Et c'est cet esprit qui est en nous. Il nous permet, à partir de ce moment, d'exercer une autorité sur nous-mêmes d'abord. Parce que si le diable peut exercer une autorité sur nous, c'est qu'il a une surface de prise dans nos propres vies. Soit que nous ne sommes pas entièrement à Dieu, ou soit que dans notre vie, il y a des domaines qui lui sont encore soumis et sur lesquels il nous manipule, nous tient. Sommes-nous victorieux dans tous les domaines de notre vie? Non. Factuellement, non. Mais spirituellement, oui. Si et seulement si nous savons ce que Christ a fait pour nous. Si nous croyons que nos péchés ont été absorbés par le Christ. J'emploie le terme absorbé. Parce qu'il n'y a pas plus belle image que le film de Mel Gibson, où quand Jésus était à la croix, on voit des nuages noirs qui représentent l'ensemble de tous les péchés. Que lui, Jésus, en tant que saint, a absorbé pour laisser sortir la vie de l'Esprit en nous. Il s'est fait péché pour nous communiquer sa justice. Et si nous croyons que Jésus a déjà pris nos péchés, c'est lui qui s'en occupe. Et aux yeux de Dieu, nous vivons une sorte de recyclage. Mais si et seulement si nous savons confesser à Dieu nos péchés, apporter nos fautes devant le Seigneur. Faible que je suis, Seigneur, j'ai envie de te servir et regarde encore une fois de plus. J'ai failli. Et Dieu ne se lassera pas de nous pardonner. Dieu qui n'a pas épargné son Fils, il a donné à la croix pour nous. Penserez-vous que Dieu s'empêchera de vous donner toutes choses en lui? Non. Si vous pensez que Dieu est radin, ça c'est une pensée qui ne vient pas du Seigneur. C'est l'ennemi qui veut vous faire comprendre que Dieu n'est pas un Dieu d'amour. Je vous prie que rien au monde ne vous empêche de croire que Dieu était Dieu d'amour. Si vous ne le percevez pas, vous n'avez pas besoin de le percevoir. Confessez-le à tue-tête. Et un jour ou l'autre, ça pénétrera dans votre cœur. La nature de l'Église est le reflet de la nature de Christ. En tant qu'entité, l'Église tire son identité de Jésus le Christ. Et Jésus, il est à la fois homme et il est à la fois Dieu. Inconciliable. Et pourtant, une personne en deux natures, homme par son enveloppe charnelle et Dieu par sa conception et par son esprit. Jésus est l'incarnation de l'union de la nature divine, éternelle, infinie, et de la nature humaine, limitée dans l'espace. Ces deux natures, de prime abord, paraissent irréconciliables. La nature humaine subit une limitation. Elle connaît une finitude, tandis que la nature divine, elle est infinie. Elle jouit de l'éternité. Et c'est parce que Jésus est dans l'éternité qu'il est venu nous chercher dans la finitude pour nous amener dans l'éternité. Justement, ça paraît inconciliable, mais c'est ce que Jésus a accompli. C'est dire que l'Église du Seigneur, il est à la fois naturel, composé des hommes et des femmes et moi, ok ? Mais il est en même temps surnaturel, quant à ses ressources. C'est ça que les chrétiens n'arrivent pas à comprendre. On vit dans les deux espaces. Souvent, on est beaucoup plus sensuel parce qu'on a vécu conditionné par notre monde d'ici-bas. Mais à la nouvelle naissance, on ne s'exerce pas suffisamment pour comprendre comment fonctionne le monde spirituel. Même dans l'Ancien Testament, si vous lisez bien avec intelligence, vous comprendrez. Parfois, les textes des psaumes que nous lisons, on a l'impression qu'un coup, la personne est sur terre et un coup, la personne est dans le ciel. Un coup, la personne est sur terre, un coup, la personne est dans le ciel. C'est que notre esprit va là-bas et ça revient. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. Si vous ne le faites pas, c'est que vous êtes dans le cachot. Il faut vous secouer. Ne soyez pas comme cet aigle qu'un agriculteur ayant eu pitié d'un petit aiglon. Il a recueilli, il a mis dans un poulailler. Il a vécu avec des poules, picorant, allant ici à gauche, à droite, sachant que cet aiglon, il est devenu un véritable aigle avec des ailes. L'agriculteur a dit, mais maintenant tu as grandi. Ta place n'est plus dans le poulailler, ta place est dans les airs. Je vous ai fait un cours sur l'aiglon. Parfois, ce sont des choses intéressantes, hein. On peut prendre un animal comme ça, le disséquer, on comprend la nature du Seigneur. L'agriculteur a pris l'aiglon qui a grandi. Il est en train de lui dire, mais maintenant, petit aiglon, tu n'es pas fait pour être avec les fientes de poules. Toi, tu es majestueux, c'est l'air qui te convient et ton aspect est dans le ciel. Il a lâché l'aiglon, il est retombé. Il a été déprogrammé de vivre comme les poules. Et beaucoup de chrétiens ont été déprogrammés de leur vie d'enfant de Dieu et en vivant sur terre. Alors il faut qu'on nous reformate, on nous reprogramme. Nous sommes appelés à être reprogrammés. Et c'est ce que Dieu est en train de faire avec le Christ. Vous ne connaissez pas la puissance d'un esprit renouvelé. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de quoi ? Et c'est ça qui nous manque beaucoup. Ainsi, l'Église dite du Christ est le corps spirituel composé de deux, de ceux, des hommes qui reconnaissent en Christ leur Sauveur et leur Seigneur. Et sur ces personnes, l'Esprit de Dieu a été répandu, maintenant sans réserve. Sans réserve. Nous sommes dans les derniers temps, c'est la dernière génération. Dieu ne retient pas l'Esprit. Il donne à profusion. Parce qu'après, il n'y aura rien. après avoir décrit l'Église comme corps spirituel, l'Église est avant tout un corps social, physique, matériel, composé d'hommes et de femmes et des enfants, des personnes de tous âges, de tous les temps, de tous les lieux, de toutes les nations, comme dit la parole du Seigneur dans le livre d'Apocalypse. Car il, Jésus, l'agneau de Dieu, il a été immolé et qu'il a racheté pour Dieu par son sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, et qu'il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs, c'est-à-dire des prêtres, pour notre Dieu. Et ils régneront sur terre. Le règne de Christ n'est pas au ciel. Ça encore, c'est un autre aspect de la vie chrétienne qu'il faut développer. Et ceux qui étudient le livre d'Apocalypse en trouvent déjà le bout de cette réalité. Ainsi, l'Église de Christ est une réalité concrète qui, sur terre, prend racine et ressource dans le monde céleste de Dieu. Alors, et l'Église est à la fois naturelle et en même temps surnaturelle. Mais en tant qu'entité humaine, physique et matérielle, la présence de l'Église dans notre monde pose une autre problématique, laquelle, c'est que lorsque les hommes se retrouvent pour vivre ensemble, ils doivent s'accorder sur leur mode de fonctionnement. Il faut la présence d'une autorité apte à arbitrer selon les règles, des conflits qui peuvent surgir, apprendre à gérer des biens communs, qu'à imposer la présence des diacres dans l'Église primitive, à trancher entre les points de vue opposés sur un sujet particulier. Chez les catholiques, le magistère, c'est le pape. Mais chez nous, les protestants, qui est le magistère? On le verra tout à l'heure. L'Église de Christ ne fait pas exception. Souvent, on est enclin à idéaliser les églises des débuts du siècle, hein, en disant que ah, les églises primitives, c'est des belles églises. Ah oui, c'est des belles églises. Mais ils ont également le même problème que nous. Hein. Ah ouais? Ils ont les mêmes problèmes. L'ostracisme, le racisme, la mise à part, c'est les humains. Peut-être la forme à l'heure actuelle est assez subtile, mais le fond est le même. Le fond est le même. À cet effet, 7 ou 8 questions peuvent être soulevées, et je ne prétends pas les épuiser dans la prédication, bien au contraire. Ces 7 et 8 questions permettant par leur réponse apportée d'avoir une clarté de ce qui doit être notre code de conduite. Et en voici quelques-unes des questions. Comment l'Église devrait-elle être organisée, selon vous? C'est une belle question de dissertation. J'aurais aimé avoir une réponse de la part des uns et des autres. Comment l'Église devrait-elle être organisée? Qui la dirige? Qui détient l'autorité dans l'Église? Comment l'autorité doit-elle être vécue dans son sein, par les uns et par les autres? Et à cela, je vais vous donner juste un exemple. Je ne pointe personne. Il était survenu au sein de notre union une situation assez compliquée, où après avoir retourné la question dans tous les sens, la moins pire des solutions, c'est de dire à la personne d'aller se reposer en attendant que la situation soit résolue. Ouh, bronca! Mais vous êtes sans amour! Regarde ce que vous avez fait! Mais est-ce que vous avez examiné, vous êtes rentré dans les contenus de la situation pour pouvoir apporter un tel jugement? Je le dis franchement, parce que si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, nous ne sommes pas l'Église de Jésus. Qu'en est-il de la discipline? Et cette discipline, qui doit l'exercer? À l'égard de qui? Et dans quel cas? Voilà des questions. La plupart des églises dites chrétiennes, car toute organisation humaine dite église ne sont pas forcément des églises chrétiennes. Vous conviendrez avec moi? Ah oui, il y a des églises lucifériennes, il y a des églises babyloniennes, même aux États-Unis. Il y a une autre église qui vient de sortir de la note d'une grande star et ils ont une grande salle avec des millions. Il y en a d'autres qui vont jusqu'à la Maison Blanche prier avec des capuches noires et qui descendent le Capitole pour y aller. Avec une pancarte, l'église de Christ. Il s'agit de quel Christ? Ces églises s'accorderont toutes à affirmer que c'est Jésus le Christ qui est le chef de l'Église, la tête, laquelle est son corps, comme nous l'avons lu. Ce qui est hautement vrai, car Dieu a tout mis sur les pieds de Jésus. Lui qui n'avait pas considéré comme étant une proie à arracher d'être égal à Dieu, il s'est humilié jusqu'à la mort, à la mort de la croix. Et Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout autre nom. Personne n'est au-dessus du nom de Jésus. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, c'est-à-dire vous et moi. Nous avons pour tête Jésus-Christ. Ça, c'est une vérité établie. Ce n'est pas une promesse, c'est un fait divin. Si tu le considères comme étant une promesse, tu ne vivras pas. Mais si tu le considères comme étant un fait divin accompli, mais tu rentres, tu la vis. Mais si nous considérons que l'Église est le corps de Christ, comment doit-elle être dirigée? L'Église n'est ni une autocratie, ni une oligarchie, ni une démocratie. Je rentre dedans. Qu'est-ce que c'est que l'autocratie? L'autocratie, selon sa définition, c'est un seul individu qui exerce le pouvoir, et de manière absolue. Vous suivez mon regard là? Et quand les protestants vont se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, ils vont réagir. L'oligarchie, c'est quoi l'oligarchie? C'est une autorité ou pouvoir détenu par un groupe de personnes, à l'instar des pharisiens, qui détient à la fois le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Démocratie. J'aurais aimé que dans une thèse en théologie, un étudiant puisse prendre ce thème-là pour voir si est-ce que l'Église est une démocratie. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? Elle a son aspect positif, son aspect dangereux. Abraham de Lincoln disait que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Et l'Église catholique, à un moment donné, on dit que vox dei, vox populis, ou vox populis, vox dei, c'est-à-dire la voix du peuple, c'est la voix de... Faux! Faux! Archifaux! Archifaux, non! Qui vous a dit que la voix du peuple est la voix de Dieu? J'ai plusieurs démonstrations bibliques à vous montrer que c'est faux, cette affirmation. Une seule personne qui est dans la volonté du Seigneur peut avoir une raison contre mille. Mais cependant, dans nos collèges, c'est nécessaire que nous puissions, après discussion des points de vue, la vérité apparaît. Et à partir de ce moment, il peut être appliqué parce que nous sommes tous nés de nouveau. Ça, c'est différent. Les grandes lois qui se prennent au niveau de l'Assemblée nationale, vous pensez que la loi va dans le sens de ce que Dieu veut, et pourtant la loi a été votée. Hein? L'interruption volontaire de grossesse. On dit que bon, mais 6 mois, c'est pas bon. Maintenant, ils ont poussé jusqu'à quel mois maintenant là? Et c'est passé. Et les églises, les lois qu'ils sont en train de prendre pour nous mettre dans la nasse là, en ce moment là, où il fallait que notre frère Thierry justifie un centime qui sort. Mais, on est en train de nous mettre dans la nasse. Pas de liberté, là. Vous croyez que c'est les chrétiens qui ont voté cette loi? Et je vous avoue, il y en a d'autres encore. Hein. Mais si l'Église n'est ni une autocratie, ni oligarchie, ni une démocratie, elle est quoi, alors, selon vous? L'Église, sans risque de se tromper, elle est une christocratie. Christocratie. Autrement dit, c'est l'autorité revient à l'Église. Car le Christ y est placé au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance, de toute domination et de tout autre nom qui puisse être invoqué, non seulement dans ce bas monde, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a mis toutes choses sous ses pieds et il a donné à l'Église comme la tête de tout ce qui existe. L'Église est le corps de Christ. En elle, le Christ est pleinement présent et c'est Christ qui remplit tout en tous. Tout. Tout. Il est nécessaire de saisir car il s'élevera de faux Christ, de faux prophètes, Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, si possible, même les élus. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à l'heure actuelle. Alors, une fois avoir dit tout cela, la question délicate demeure. On n'a pas encore résolu, n'est-ce pas? Comment l'autorité du Christ, absent en chair, sur son Église, peut-elle s'exprimer concrètement? Concrètement. Christocratie, oui, mais comment? Si Jésus n'est pas physique, il n'est pas là. Il fait quoi? C'est là où nous arrivons, dans un domaine qui n'a pas été très bien développé, qu'on aura l'occasion de le faire, dans ce qu'on appelle l'autorité déléguée. Il y a l'autorité de Dieu qui est une autorité absolue, Dieu le Père. Son autorité est indiscutable. Nous avons l'autorité de Jésus. Ça commence déjà à être discuté avec le Saint-Père. Normalement, l'autorité de Christ doit être indiscutable. Au temps des pharisiens, ça y est déjà. Mais quand Christ est mort, il est monté au ciel, il nous envoie son esprit. Et l'esprit rentre dans les chrétiens à doses différentes. Et c'est à partir de ce moment-là que l'exercice de la christocratie commence, qui est beaucoup plus proche en obéissance auprès du Seigneur pour pouvoir être le délégué de son autorité. Saisir l'autorité de Christ et l'exercer. C'est là où tout le problème. Bon, je m'arrête là, parce que le temps est accompli. Mais avant de s'arrêter là, je vais lire juste deux textes que je ne veux pas développer et que nous aurons l'occasion de voir le double niveau d'autorité. Le premier, c'est ce que nous avons, excusez-moi, dans le texte suivant, Jean chapitre 13, verset 3. Il se lève de la table Jésus, ôta son vêtement de dessous et prend une serviette dont il s'entoure la taille et il leur a dit à ses disciples, « Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns et aux autres. Je vous ai donné un exemple pour que vous agissiez comme je l'ai fait pour vous. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, tout comme un envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'entrevoit. Maintenant que vous savez cela, vous serez heureux pourvu que vous le mettez en cela. » Voilà l'autorité. Une autorité qui sert. L'autorité de Christ, c'est lequel il s'est levé. Parce que quand ce texte-là, vous avez dit que Dieu lui a donné toute autorité entre ses mains. Entre ses mains, c'est que la chose est là entre les deux mains. Et après, il prend le linge. Il faut aller chercher le linge qui est l'outil pour exercer le service. L'outil pour exercer le service, c'est le linge. Et c'est un service des plus humbles. Laver les pieds de quelqu'un, c'est comme si vous prenez un bébé qui a fait caca et vous voulez le nettoyer. C'est ce que ça veut dire. Jésus a pris un exemple extrême pour dire que voilà à ce niveau-là que nous devons être. Voilà l'exercice de l'autorité, pas pour dominer. Les grands de ce monde vous dominent. Ils vous prennent votre impôt. Encore, il faut savoir ce que l'impôt fait avec. Ils demandent vos enfants d'aller, les militaires. On les envoie au front. Quelques temps après, on vous ramène le cercueil de votre enfant. Ah oui? Ça, c'est le droit à la monarchie. C'est ce qu'ils font. Mais ce n'est pas ce que Jésus demande. Le serviteur. Alors, dans notre église réformée évangélique, qu'est-ce qu'on fait? On a examiné tous ces différents détails, les dangers des uns et des autres, et nous sommes dans un système qu'on appelle synodo-presbytéral, qui a un double niveau d'autorité. Le niveau d'autorité au niveau local, composé de collèges des anciens, qui ne prennent pas de décision comme ça, une seule personne. Parce que le danger existe de prendre une seule décision par une seule personne. Mais cette décision qui est appliquée au sein de l'Église locale a pris sa source au niveau de l'Église, au niveau de l'Union, qu'on appelle le synode. Et quand le synode se retrouve sur le collège de l'ensemble de notre Église d'Union, représentée par les délégués et les pasteurs, qui examinent avec la prière prendre une décision, et cette décision est appliquée. Là, il y a moins de risques d'erreur que quelqu'un fasse cavalier seul pour imposer son point de vue. Et cette manière de faire ce modèle est le moins pire que le modèle épiscopal où la décision revient à une seule personne. C'est pour ça qu'il est très important, nous, au sein de notre Église, après avoir examiné le mode de fonctionnement, on se dit que tiens, nous allons partir de Jésus le Christ. Or, Jésus en lui est incarné les trois fonctions. Suivez-moi, les gars. En Jésus, il y a la fonction royale. En Jésus, il y a la fonction prophétique. En lui, il y a la fonction pastorale, ou prêtre ou sacrificateur. Si en Jésus tout est incarné, cette fonction doit se transposer au niveau de son corps. Or, son corps est composé de qui ? Son corps est composé de vous et moi. On est une multitude. Donc sûrement, dans les trois groupes, certains d'entre vous devaient en faire partie. Et il va falloir que vous examinez quel est votre positionnement par rapport au don que vous avez. Soit vous faites groupe, partie du profil prophétique, ou vous faites partie du profil royal, ou vous faites partie du profil pastoral ou sacrificateur. Voilà le travail. Et quand on est dans une telle configuration, on est posé comme un corps. Il y a la place du cœur, il y a la place des poumons, il y a la place des pieds, il y a la place des bras, il y a la place des oreilles. Et il y a des organes qu'on voit, d'autres qu'on ne voit pas. D'autres sont visibles, d'autres ne le sont pas. Certains interviennent que de manière occasionnelle, d'autres de manière permanente. Et c'est ça le corps de Christ. Et elle est appelée à évoluer. Comprenez-vous ? Si quelqu'un rentre ici avec des jambes sur sa tête et ses pieds par terre, nous allons tous fuir. Parce qu'il n'est pas dans le canon. On n'a pas créé des jambes pour être sur la tête, mais pour porter le corps. Et donc nous devons avoir cette forme établie par le Seigneur pour nous permettre de marcher convenablement. Alors, j'arrête. Voilà l'idée. Église visible, église invisible, ça on le verra beaucoup plus tard. Et donc au sein de notre union, c'est la situation la moins pire. Après avoir examiné le danger des églises protestantes et les dangers des églises catholiques, ceux qui sont nos aînés ont examiné au sein de l'église réformée évangélique que c'est la meilleure façon de faire. Et nous allons fonctionner de cette manière-là. Avant qu'une décision vienne au niveau de l'Assemblée, nous les aurions retournés au niveau du conseil presbytéral, dans tous les sens, par la prière, ce qui ne se faisait pas par le passé. Vous comprenez très bien que nous sommes en train de prendre un virage en ce moment-là. Soyez participants par votre présence, par les réponses aux convocations pour que nous puissions tous marcher des mêmes cœurs et des mêmes pensées, car il en était question. Soyez tous unis, ayez le même état d'esprit et la même conviction. Ne dites-moi pas que vous avez la foi en Christ tout en méprisant l'Église du Seigneur, tout en s'absentant comme on veut, tout en faisant ce que l'on veut. Un dimanche, je dis qu'aujourd'hui, je ne viens pas, je viens de l'autre côté. Mais notre frère ou notre sœur a commencé une prédication la semaine dernière sur un thème. Il n'a pas terminé. Il voulait le terminer. Vous allez partir avec un morceau de connaissance et vous avez une connaissance incomplète. Là, on va en avant, on recule de deux pas. On va d'un pas, on recule de quatre pas. On va de deux pas, on recule de cinq pas. Il faut que nous avancions. Et ce serait encourageant pour vous, pour nous et pour le Seigneur. Voilà. Permettez-moi de ne pas conclure mon message parce que je reviendrai encore après. Mais en tout cas, l'idée, elle est là. Que le Seigneur nous aide à aller de l'avant avec sa grâce. Nous bénissons votre présence. Ce n'est pas moins des choses. On compose ensemble. On travaille pour le royaume de Dieu. On n'est pas des mercenaires. On est les enfants du Seigneur. Nous participons à l'œuvre de la maison. Que papa nous paie ou que ça ne nous paie pas, c'est notre maison et nous le prenons en main pour la gloire de notre Seigneur. Soyez bénis. Amen.